fournir à la municipalité de Rieux 32 tramways. C'est un projet pour nous qui est une vitrine et on pense que ça va permettre à d'autres villes brésiliennes de se servir comme exemple de Rieux et de mettre en place des trams dans d'autres villes.
Une action comme celle-ci peut paraître ponctuelle, mais ensuite, on va pouvoir développer d'autres actions commerciales pour d'autres installations de salles de sport.
Sans l'aide des sponsors, sans le fait de travailler à côté, je ne pourrais pas être sportive de haut niveau handisport. C'est totalement impossible. On va dire qu'on a des talents en devenir qui sont bloqués par cette question financière.
C'est certainement un Eldorado pour les entreprises qui ont réussi à décrocher une place dans cette rude compétition. Mais ce n'est pas forcément l'or que touchera le Brésil à l'issue des Jeux Olympiques prévus à partir du 5 août prochain. Le budget est colossal, moins pharaonique qu'à Londres certes, mais il tourne tout de même autour de 9 milliards d'euros. Et pour un pays en pleine récession financière et en plein marasme politique, le pari demeure risqué. Côté institution, la semaine dernière encore, le ministre du Tourisme a dû démissionner, emporté lui aussi par le scandale Petrobras. Et côté équipement sportif, pour ne donner qu'un exemple, fin avril, ce sont 4 km de pistes cyclables situées en bord de mer qui ont été emportées par une lame de fond tuant au passage 2 nageurs. Malgré tous ces risques politiques, sécuritaires, financiers, un grand nombre de sociétés se disputent leur participation aux JO. Parmi les Françaises, l'essentiel du CAC 40 et beaucoup de PME sont représentées au Brésil. Toutes rêvent de se placer ainsi en pole position pour les futurs Jeux de 2024 qui font déjà vibrer Paris. JO de Rio, les entreprises françaises sur le podium, c'est un magazine signé Hakim Kasmi. Pour écouter et commenter ce magazine de la rédaction, nous sommes en duplex depuis France Bleu Limousin avec Didier Primo. Bonsoir monsieur.
Bonsoir.
Vous êtes économiste au Centre de droit et d'économie du sport à Limoges. Et nous sommes également en duplex avec Daniel Bilalian, directeur général adjoint de France Télévisions en charge des sports. Bonsoir monsieur.
Bonsoir.
Alors vous trouvez à Saint-Lô où bien sûr débutera le Tour de France demain. Voilà pourquoi vous ne pouviez pas être avec nous en studio ici ce soir. Nous sommes également avec Hakim Kasmi. Bonsoir Hakim.
Bonsoir Tara.
Vous rentrez de Rio, Hakim, où vous étiez avec des entreprises françaises qui ont investi dans ces Jeux Olympiques.
Oui, avec 40 sociétés, aussi bien des grandes côté au CAC 40 que des plus petites. La France sera donc bien représentée à ces Jeux Olympiques de Rio, comme nous avons pu le constater en nous rendant au Brésil. De l'hôtellerie avec le groupe Accor, au transport avec Alstom qui fabriquera le premier tramway de Rio, en passant par la communication ou encore les équipements sportifs avec Gerflor qui fera les revêtements de sol notamment pour le handball et le volleyball, autant le secteur où nos entreprises ont pu s'imposer en grande partie aussi grâce à leur innovation. Nous verrons également que nos entreprises jouent également un rôle prépondérant ce qui concerne les Paralympiques qui commenceront eux début septembre, notamment dans le sponsoring. Si depuis les Jeux de Londres, il y a 4 ans, eh bien, il y a une parité désormais en ce qui concerne la prime aux médailles entre les sportifs valides et handicapés. Eh bien, concrètement, ce n'est pas toujours facile pour les sportifs handisports qui ont moins de moyens et qui très souvent doivent survivre grâce aux subventions publiques et privées. Comme nous le verrons notamment avec Marie-Amélie Le Fur, cette championne paralympique à Londres et championne du monde qui tentera de décrocher une médaille d'or, eh bien, à Rio pour ses derniers Jeux dans le domaine de l'athlétisme.
Alors, on écoute votre magazine, Hakim, qui commence d'abord à Paris avant de nous transporter, bien sûr, avec les supporters au Brésil.
Si tu vas à Rio, n'oublie pas de manger du bacalao.
Si tu vas à Rio, faudra tous les mettre KO.
N'oublie pas ceux qui t'ont aidé à aller à Rio.
Ramène-nous une médaille olympique.
N'oublie pas de monter là-haut.
Supporters, familles, athlètes ou gros clients invités par les entreprises, plus de 3000 Français vont se rendre aux Jeux Olympiques de Rio. Pour assister aux épreuves, ils devront débourser entre 2500 et 5000 euros. La plupart d'entre eux seront pris en charge par l'agence Eventim, spécialisée dans la vente de billets et de voyages pour les grands événements sportifs. C'est l'agence officielle qui a été choisie par le Comité National Olympique Français. Igor Jason est le directeur, nous l'avons rencontré dans ses locaux à Boulogne, en banlieue parisienne. Alors pour bien comprendre l'aspect logistique, hein, parce que c'est très complexe de faire une opération comme celle-ci, qu'est-ce qui est compliqué? Les hôtels, mais aussi la billetterie, il faut négocier sur place. Comment que ça se passe dans les coulisses? L'achat des billets, les réservations d'hôtels, il faut bloquer les hôtels un an à l'avance, idem pour les billets d'avion, comment ça se passe?
Alors en fait, les hôtels, oui, c'est plus de 2 ans à l'avance même. Hein. Donc nous, c'était en tout cas notre choix de vraiment être présent à Rio très rapidement, puisque ce qu'il faut savoir, c'est que donc Eventim aussi était l'agence officielle du comité belge. Donc on a eu notre agrément plus tôt. Donc ça nous a permis déjà de nous impliquer sur les Jeux Olympiques de Rio. Donc on a contracté le plus tôt possible avec les hébergements, puisque encore une fois, il y aura pénurie. Donc là, pour les hôtels, voilà, c'est la mission, c'était de contracter un maximum d'hébergements en 3, en 4, en 5 étoiles. Pour, en tout cas pour contenter tous les Français qui allaient passer par Eventim. Donc après, sur la billetterie, pardon, il n'y a pas de négociation. Ça, c'est globalement, c'est chaque comité olympique, en l'occurrence le comité français, a une allocation et qui délègue la gestion de sa billetterie à une agence. Donc il n'y a pas de négociation, c'est vous avez une allocation, votre mission, c'est de la vendre.
Chaque pays a un quota de places à distribuer, c'est ça?
Exactement. Exactement.
Et en l'occurrence, pour Rio, combien de places y avait-il?
Nous, globalement, au global, hein, parce que donc, Eventim est agence officielle pour la France, la Belgique et Monaco, on est pratiquement 50 000 billets au total.
Ah, c'est pas mal, 50 000 déjà.
Oui, c'est pas mal, hein, donc, globalement. Mais là, on a déjà commercialisé près de 85%. Et il nous reste, sur les 15% restants, il reste 80% de très bons billets.
Alors 50 000 billets, ça représente combien, tout cumulé en euros, pour avoir une idée?
Globalement, un peu plus de 4 millions d'euros.
Vous avez un petit pourcentage sur la vente des billets, j'imagine?
Absolument pas. Alors en fait, le comité olympique donc choisit a une allocation qu'elle délègue en gestion à Eventim. Donc Eventim n'est pas commissionné hein, par le comité d'organisation, donc le ROCOG hein, de Rio. Donc on est plafonné pour cette gestion, pour la sécurisation, la logistique, etc. Donc on y ajoute des honoraires de gestion. Pour traiter la billetterie, aussi bien pour aller la chercher que la sécuriser, etc.
Alors sur un billet à 20 euros par exemple, combien vous vous octroyez entre guillemets de petites marges pour pouvoir répondre à l'aspect logistique, au transport, à la sécurisation?
Non, globalement on a des honoraires qui ne sont pas de la marge puisque ce sont des honoraires qui permettent en tout cas de payer tous les frais de gestion. Donc c'est à peu près 4 euros. Le modèle économique d'Eventim sur un événement comme celui-là, c'est de plutôt évidemment de proposer de la billetterie sèche parce que ça fait partie de notre mission, mais surtout aussi de permettre aussi aux Français d'y aller et donc de proposer des voyages aux Français, aux supporters, aux entreprises. Donc on est là pour ça. Donc voilà, notre mission, c'est la billetterie et les voyages.
La délégation française, qui comprendra près de 400 athlètes, sera transportée par Air France, la compagnie qui est partenaire du CNOSF, le Comité National Olympique Français depuis plusieurs Olympiades, et qui sera aussi l'un des fournisseurs officiels de la candidature de Paris au JO 2024, a dû répondre à un appel d'offres pour remporter ce contrat. Un contrat à plusieurs millions d'euros qui comprendra en grande partie le transport des sportifs et de leurs équipements. Du matériel très cher, qui peut être fragile et qu'il faut donc manier avec précaution. Alain Schiff est responsable de piste à Roissy, avec ses collègues. Il aura donc la lourde tâche de faire respecter les consignes pour que le matériel arrive à bon port à Rio. Il y en a la soute qui s'ouvre. Alors, dans cette soute, qu'est-ce qu'on va mettre?
Alors, en général, hein, dans la soute avant, on va y mettre plutôt du fret. Et dans la soute arrière, on va y mettre plutôt des bagages passagers.
Alors notre matériel pour Rio, là, il sera où là?
Alors, vos matériels pour Rio, il peut être aux deux endroits, justement en fonction de leur dimension. Si ce sont des perches, il est possible qu'on ait préparé à l'avant de quoi stocker les perches parce qu'elles sont très longues. Si ce sont des chaises roulantes, on va plutôt les préparer sur la dernière soute arrière, qui est une petite soute manuelle dans laquelle on met que du vrac, mais dans laquelle on peut aussi arrimer les chaises pour qu'elle voyage en toute sécurité. S'il y en a beaucoup, on va les mettre également dans un conteneur prévu à cet effet, dans lequel on va les arrimer également.
Là, c'est voilà. On ouvre la soute arrière.
Voilà.
Alors typiquement, qu'est-ce qu'on mettrait pour les JO ici?
Fred, qu'est-ce qu'on met en général comme équipement pour les Jeux Olympiques dans les soutes?
Donc ça peut être beaucoup de choses, ça peut être des sacs de sportifs, ça peut être de l'équipement, ça peut être du matériel de récupération aussi pour les sportifs, donc c'est du matériel qui coûtent quand même très cher et qui sont fragiles. Donc en général, ils sont mis sur les palettes et on les retrouve sur les palettes, mais pas beaucoup dans les conteneurs. Dans les conteneurs, on retrouve souvent, c'est du petit équipement.
Bonjour monsieur, bonjour madame.
Alors pour vous, j'imagine que au Brésil, hein, l'enjeu financier il est important, parce que le but c'est aussi de gagner de l'argent pour ces Jeux Olympiques, c'est pas juste de transporter les supporters.
Disons que le partenariat que nous avons avec le Comité national olympique français n'est pas seulement un partenariat.
Hugues Edebo, responsable d'Air France au Brésil.
C'est au départ un appel d'offres qui a été lancé par ce Comité national olympique pour choisir un transporteur de manière à amener les athlètes et la délégation française au Brésil. C'est Air France qui a gagné cet appel d'offres. Et au même titre donc que nous gagnions cet appel d'offres, nous avons souhaité être partenaire pour être présent sur le Village France. Donc d'un point de vue purement business, oui, il faut transporter entre 800 et 1000 personnes qui sont des athlètes, des journalistes, des accompagnants, des entraîneurs, que sais-je encore. Et puis le reste des vols pour les clients qui viennent assister aux manifestations sportives.
Alors, vous, Air France, vous serez présent aussi au Club France, hein, où il y a tous les partenaires officiels qui sont présents à Rio. En quoi c'est important, en termes de communication, en termes de marketing, d'être présent au Club France pour une entreprise comme Air France ?
Et la présence d'Air France sur un Village France, c'est destiné à la fois aux clients brésiliens, puisque nous sommes quand même au Brésil, mais aussi pour les partenaires français qui sont présents et qui viennent pendant les manifestations. Donc sur ce lounge, nous allons recevoir deux types de clients. Nous allons recevoir des Français, des familles d'athlètes, nous allons recevoir des journalistes, nous allons recevoir des clients qui vont venir dans l'agence éphémère qui sera à l'intérieur de ce lounge pour faire de la réservation aérienne, de la billetterie. Et puis l'autre gros morceau que nous préparons activement depuis plusieurs semaines, c'est d'accueillir les meilleurs clients d'Air France au Brésil. Donc nous aurons plusieurs événementiels pendant ces 15 jours. Cette manifestation, elle sert à promouvoir la marque Air France, que ce soit pour les Français comme pour les Brésiliens.
Alors il faut bien comprendre, si vous devez répondre à un cahier des charges de la part du CNOSF, qu'est-ce que vous demandez ce cahier des charges ?
Ben, il nous demande de transporter le lundi 22 août, donc 800 personnes, de ramener les athlètes de Rio à Paris, les athlètes et leurs accompagnants, et leurs outils de travail, les planches de surf, les perches, dans tout ce qui concerne donc, le transport d'équipements sportifs. Donc c'est cela que nous avons gagné, en fait, c'est du transport pur. Ensuite, d'accompagner les athlètes dans une atmosphère de service à bord qui soit adaptée à la situation, donc c'est ce que nous offrirons.
En termes de communication, de publicité, deux avions qui arrivent avec l'équipe olympique, ça vaut plus que des pubs le soir à 20h sur TF1 et France 2 ?
C'est probable, c'est tout à fait probable, oui, oui.
Alors nous sommes donc ici arrivés à Rio, aéroport Antonio Carlos Jobim, nom d'un illustre chanteur ici au Brésil, où nous allons donc voir comment les entreprises françaises s'organisent afin de pouvoir partager ce gâteau que constitue l'événement planétaire que sont les Jeux Olympiques de Rio qui débuteront le 5 août prochain. Alors en tout cas, si les entreprises françaises seront nombreuses, grandes comme petites, Accor, Alstom, Lacoste ou encore d'autres petites PME spécialisées dans l'équipement, comme nous le verrons tout à l'heure, des tribunes, des parquets pour les terrains de handball, de basket ou encore de volleyball. Ici, la France est présente déjà dès l'aéroport puisqu'on a pu voir de grands panneaux JC Deco, le spécialiste de l'immobilier urbain sur lequel on pouvait voir de nombreuses publicités. C'est dire si la France est déjà présente ici au Brésil pour l'événement que constituent les Jeux Olympiques de Rio. Comme la plupart des délégations, chaque pays aura son club, un lieu prestigieux où les athlètes viendront fêter leurs médailles avec leurs supporters. Pour les entreprises partenaires, il sera aussi l'occasion de choisir leur plus gros client. Celui de la France sera basé à la société hippique de Rio, un centre équestre très sélect qui s'étend sur près de 4000 mètres carrés. D'après nos informations, sa location et son aménagement auraient coûté 6 millions d'euros, un chiffre que l'on n'a pas voulu nous confirmer.
Bonjour.
Bonjour, c'est le consul.
Brice Roquefeuille, donc je suis le consul général de France à Rio de Janeiro. Alors Alexandre Bazir, je suis l'attaché olympique et paralympique pour la France, ici à Rio.
Alors vous pouvez nous dire où est-ce qu'on est un peu ici, pour bien comprendre ?
Alors dans un quartier assez, dans un lieu assez prestigieux, puisqu'on est déjà sur un site olympique. On est en face de la lagune, Lagoa de Freitas, qui va accueillir les épreuves d'aviron et de canoë de vitesse. Et puis au pied du Corcovado, donc on est dans un lieu absolument magique, bien connu des cariocas, à proximité de Copacabana et d'Ipanema.
Alors, si vous expliquez, c'est qu'ici on est dans un grand centre équestre, on avait beaucoup d'ailleurs vu quelques chevaux tout à l'heure. Pourquoi avoir choisi ce lieu ?
Alors, le Comité olympique français a choisi cet espace
compte tenu de sa volonté de pouvoir accueillir un grand nombre de compatriotes, de visiteurs, de Brésiliens, de pouvoir réunir la famille olympique, les sportifs, d'avoir un espace qui va offrir de nombreuses possibilités d'animation, de réception, d'événements, un lieu de vie, de rencontre, de célébration des médailles et aussi de l'amitié franco-brésilienne. Donc ce sera un peu la vitrine de la France, l'ambassade de France pendant les Jeux Olympiques.
Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'ici on a près de 4000 m², c'est très grand. Alors pour comprendre à quoi ressemble ce Club France, je vous propose qu'on vous suive avec Alexandre, qu'on vous fasse une petite visite guidée pour comprendre les différents endroits stratégiques qu'il y aura ici et voir un peu qu'est-ce qu'on y fera concrètement et comment ont été conçus et préparés les choses. On y va ?
Allez, merci.
Alors, monsieur le consul, ici, on le voit, il y a beaucoup d'installations qui ont dû être mises en place au Club France. Comment se sont répartis les financements entre le Quai d'Orsay, le ministère des Sports ou encore les partenaires privés qui seront nombreux ici ?
Alors, le Club France, c'est vraiment un projet du Comité Olympique Français. Donc, c'est lui qui a assumé à la fois les choix et la prise en charge financière de cette opération. C'est vrai que le comité, par ailleurs, est soutenu par l'État. Il est aussi soutenu par des sponsors, un certain nombre de partenaires qui l'accompagnent tout au long de l'année et qui seront présents au Club France. Je pense notamment à Lacoste, BPCE, Allianz, il y en a d'autres. Et puis également un certain nombre d'entreprises installées, implantées au Brésil qui participeront aux activités. Et, par exemple Air France qui donc sera à la fois transporteur des équipes de France et puis qui aura un espace lounge ici au Club France. Voilà, donc c'est un ensemble de partenaires.
Entre le public et le privé.
Voilà, tout à fait.
Ça, c'est vraiment l'entrée du grand public. Une sorte de petite avenue où seront installés un certain nombre de kiosques, notamment celui d'Atout France, qui fera la promotion des régions françaises. Et donc le public découvrira donc ce lieu absolument magique avec ses allées d'arbres centenaires. Et puis sur la droite, le Social Club et cette grande terrasse où Air France aura son pavillon. Voilà.
Alors on le voit, hein, au-delà de l'aspect sportif, le Club France sera aussi un véritable lieu de business. Hein.
Complètement. Aujourd'hui, le Club France est effectivement l'ambassade de France ici au Brésil. C'est un lieu de promotion de la marque France dans toute sa globalité, dans toute sa diversité, qu'elle soit sportive, économique, culturelle, artistique, gastronomique, touristique et aussi olympique dans le cadre de la promotion de la candidature de Paris. Donc c'est aussi l'opportunité effectivement de valoriser les entreprises françaises qui sont installées ici au Brésil.
Si au Brésil, plus de 800 entreprises françaises qui génèrent à elles seules 500 000 emplois sont installées, 40 d'entre elles sont impliquées directement dans les Jeux Olympiques de Rio. C'est le cas d'Alstom qui a décroché il y a 3 ans un contrat de 250 millions d'euros pour la construction de 3 lignes de tramway. Alors nous sommes donc ici place Mauá, où il y a le musée d'art de Rio, et nous sommes en compagnie de Michel Boccaccio, qui est donc le responsable d'Alstom pour la région Amérique latine. Alors ce tramway est juste devant nous, on va monter à l'intérieur. Alors pour le décrire, c'est un modèle classique, hein, comme ceux qu'on peut voir en France, notamment en région parisienne ou à Bordeaux, qui sont bien connus, le tramway Citalis.
Voilà, exactement, c'est le tramway Citalis, donc c'est la famille Alstom des tramways. On va fournir à la municipalité de Rio 32 tramways, 5 qui ont été fabriqués à La Rochelle et 27 qui sont en cours de fabrication au Brésil.
Alors, ce qu'il faut bien expliquer, c'est que très souvent, dans ce genre de contrat, il y a ce qu'on appelle un peu de l'offset, c'est que les pays demandent en échange d'avoir de la production locale.
Exactement. Donc, en fait, pour avoir accès en particulier au financement brésilien, donc que la Banque nationale de développement du Brésil puisse financer le projet, il fallait que ces tramways soient fabriqués au Brésil. Pour cette localisation, on a construit une usine dans l'intérieur de l'État de Saint-Paul, à Taubaté, qu'on a inaugurée il y a un an. On a recruté, en gros, aujourd'hui, on a entre 50 et 100 personnes selon la cadence de production des trams. Et donc, on a formé les ingénieurs brésiliens à partir de notre unité de La Rochelle. Des Français sont venus ici, les Brésiliens sont allés en France. Et aujourd'hui, on a à Taubaté, donc dans notre usine de tramway brésilienne, la possibilité de faire des trams pour le Brésil ou pour l'Amérique latine, pour d'autres projets.
Alors on va le voir, ce tramway il était aussi imaginé en termes de tracé pour desservir les sites stratégiques, notamment pour les Jeux Olympiques de Rio.
Oui, en particulier, là on est donc sur ce qu'on appelle le pier Mauá. Donc c'est là où des bateaux de croisière vont accoster et vont servir d'hôtel pour les Jeux Olympiques. Et donc notre tramway qui s'arrête devant les bateaux de croisière va pouvoir emmener les gens depuis les bateaux jusqu'au centre de Rio. Allez-y.
On sent d'ailleurs l'odeur du plastique. Voilà.
Du plastique.
On est au frais parce que bah, dehors il fait une trentaine de degrés.
Ouais. Allez, tout à la grande, je dirais, la grande caractéristique de l'appel d'offres qui a été lancé pour le tramway de Rio, c'est l'alimentation par le sol. Étant donné qu'on est au centre de la ville de Rio, le client ne voulait pas avoir de caténaire. Et le projet, pour ça, ressemble beaucoup au projet de Bordeaux. L'autre caractéristique très proche de Bordeaux, c'est qu'on est dans une zone portuaire qui était abandonnée ici. Et comme à Bordeaux à l'époque, hein, la zone portuaire de Bordeaux était aussi abandonnée, ici il y a tout un programme de revitalisation de la zone portuaire. Et ce qui est très intéressant, c'est que les habitants de Rio, les Carioques, ils redécouvrent le centre de Rio qui a été abandonné depuis 50 à 100 ans. Il y a 50 ans, ou il y a une centaine d'années, il y avait un tramway ici. Et je dirais ce qu'ils appellent le projet Porto Maravilha, donc qui s'appelle Port Merveilleux, leur permet de retrouver Rio d'il y a une centaine d'années.
Ça permet de désenclaver la ville en fait. Hein.
Ça va créer un nouveau pôle dans la ville. Parce que toute cette partie de Porto Maravilha, il y a des hôtels qui sont en train d'être construits, il y a des entreprises qui vont s'y installer. Donc peu à peu, on va avoir un nouveau quartier qui va renaître dans Rio.
Ici, c'est important, on est à Rio, il y a beaucoup de congestionnement du trafic, donc d'où l'importance aussi donc, d'avoir des moyens de transport alternatifs que le tramway.
Absolument. Là où c'est un exemple aussi, le tramway de Rio, c'est que, donc on va passer tout à l'heure sur l'avenue Rio Branco. L'avenue Rio Branco, c'est l'avenue du centre qui est la plus embouteillée de Rio. Et la moitié de l'avenue Rio Branco sera sans voiture. Vous aurez la ligne de tramway, une piste cyclable et des passants. Et donc ils ont, et je dirais il y a une dizaine d'années, personne n'aurait pu penser qu'on enlèverait les voitures de l'avenue Rio Branco. Donc c'est vraiment, en termes de mobilité urbaine, c'est un projet pour nous qui est une vitrine, et on pense que ça va permettre à d'autres villes brésiliennes de se servir comme exemple de Rio et de mettre en place des trams dans d'autres villes avec cette revitalisation des centres-villes.
Dans la conquête des marchés pour les Jeux Olympiques de Rio, on ne trouve pas que les grandes entreprises comme Alstom, mais aussi des entreprises plus petites comme Gerflor, qui emploie plus de 3000 personnes en France et à travers le monde. La société qui est notamment spécialisée dans les revêtements de sol sportifs équipe les terrains des Jeux Olympiques depuis 40 ans. Alors nous sommes en compagnie de Michel Matranga, directeur de Gerflor. Alors Michel, on est ici devant le Maracana, bien connu, ce stade mythique où d'ailleurs aura lieu l'ouverture des Jeux Olympiques de Rio. Et on est aussi à côté du Palais des Sports qu'on appelle le Maracana Zinio. Pour nous décrire un petit peu?
Oui, absolument. Le Maracana, donc le stade qui sera donc le stade olympique, qui fait maintenant à peu près 120 000 places suite à la rénovation pour la Coupe du Monde de football. Attenant, donc tout de suite, il y a le gymnase Cardozo, mais on ne l'appelle jamais Cardozo, on l'appelle Maracanãozinho, qui est le petit Maracana, donc qui est un palais des sports couvert et qui va accueillir toute la compétition de volleyball et aussi donc pour tout ce qui est l'ouverture des jeux. Donc tous les athlètes seront ici avant l'ouverture, donc pour passer au Maracana. Donc c'est vrai que même si ici on est encore en travaux, mais bon, ça donne toujours un petit frisson, il y a tout qui va se passer. Donc ça sera le démarrage de tout, de deux semaines de compétition, et puis ça va être la grande fête du sport.
Alors décrocher un contrat comme les Jeux Olympiques de Rio, en quoi c'est important pour l'image et pour les finances de Gerflor?
Pour l'image, c'est important. Gerflor est fournisseur des Jeux Olympiques sur ses modalités, on va dire principalement le handball et le volley, depuis 1976. Donc pour nous, c'est déjà une année symbolique, c'est 40 ans de Jeux Olympiques. Donc c'est quelque chose d'important pour l'image, c'est clair. En même temps, comme vous l'avez dit, il y a toujours la pression, il y a la concurrence, etc. Donc on se dit, on ne peut pas se permettre de les perdre. Mais bien sûr, il y a les réalités économiques. sur Rio, sur le Brésil, on a eu aussi une autre vision des choses, c'est qu'on a voulu absolument travailler avec des partenariats locaux. Donc ici, nous, sur l'Amérique latine, nous avons des distributeurs qui travaillent avec nos revêtements, qui revendent nos revêtements, qui les commercialisent, qui les importent, donc ils font toute l'opération. Et nous, on est, entre guillemets, seulement fabricants de produits. Donc on a inclus totalement dans l'opération notre distributeur brésilien. Et donc c'est lui qui, au niveau de du résultat économique, va faire une opération plus intéressante. C'est pareil aussi pour la partie de la main-d'œuvre. On fait travailler des installateurs de revêtements, dans ce cas-là des revêtements sol sportifs, que nous avons formés, que nous avons développés pour les Jeux Olympiques. Automatiquement, une action comme celle-ci, qui peut paraître ponctuelle, c'est clair que Rio, peut-être, ça sera, bon, c'est pour la première fois, mais ensuite, on va pouvoir développer d'autres projets, d'autres actions commerciales qui vont être peut-être pour d'autres événements sportifs, mais en même temps, peut-être pour d'autres installations de salles de sport, qui seront des salles de sport peut-être uniquement publiques, ou pour des collèges, ou pour des lycées, etc.
Alors Michel, on le disait, donc, la concurrence est rude. D'ailleurs, Gerflor a fait l'acquisition d'une grande entreprise américaine spécialisée dans le parquet pour le basketball. Ça aussi, c'est une manière de remporter plus de contrats, notamment pour des Jeux Olympiques comme à Rio.
Oui, ça a été dans ce cas, ça a été un peu une opportunité. Ça n'a pas été une volonté de dire on va acquérir Connor, dans le cas des Américains, pour travailler sur les Jeux Olympiques. C'était tout d'abord une démarche pour Gerflor USA, pour le marché américain. Il y avait beaucoup de sens pour nous, puisqu'on est très présent aux États-Unis avec les sols sportifs Taraflex, donc qui sont des sols vinyles, hein, et d'avoir aussi un partenaire. Ça a d'abord été un partenaire, et ensuite nous les avons rachetés, et donc on est leader sur le marché américain, que ce soit en sol sportif vinyle et en parquet Connor. Ensuite, c'est clair que bon, ça fait à peu près 2 ans qu'il y a eu cette acquisition. Automatiquement, pour les Jeux Olympiques, ça avait aussi du sens. On s'est dit, tiens, Gerflor donc, va pouvoir peut-être fournir sur d'autres modalités, notamment dans le cadre du basket.
Oui, Gerflor sera présent dans le basket et dans le handball. Hein.
Alors, Gerflor sera présent dans le handball, dans le volley, sur la partie paralympique, donc avec toujours les sols vinyles qui sont le boccia, le goalball, le sitting volley, hein, enfin le volley assis, excusez-moi. La partie basket, il y a certaines négociations qui ne sont pas terminées actuellement.
Dans la bataille économique que représentent les Jeux Olympiques de Rio, le ticket d'entrée pour être partenaire officiel est extrêmement élevé. Conséquence, les règles sont très strictes pour les petites entreprises qui ne sont pas partenaires. Du coup, pour nombre d'entre elles, elles n'ont pas le droit de communiquer sur le fait qu'elles travaillent pour les Jeux Olympiques. À l'image de Gale Evans, qui est l'un des leaders français dans l'événementiel. Sa filiale brésilienne, qui emploie 600 salariés, est installée au Brésil depuis 2006. Elle a déjà fourni pour la Coupe du Monde, par exemple, les stands, les tribunes ou encore les tentes. Sébastien Brunet, son directeur.
Nous sommes sur le toit du Grand Mercurio Centro. Et donc ce site est un site de compétition olympique. Nous allons accueillir ici diverses épreuves pendant les Jeux Olympiques et pendant les Jeux Paralympiques. Et il est donc au cœur, hein, au cœur du cœur des Jeux en vérité, parce qu'il y a d'autres sites évidemment dans Rio, mais Barra concentre à peu près 80% des épreuves. Et donc depuis là où nous sommes, nous voyons effectivement à notre gauche le parc olympique, dans lequel se trouvent entre autres la piscine olympique, le site de handball, les 3 arénas, le centre de tennis, la piscine de plongeon et le vélodrome. Donc ça c'est le parc olympique. À notre droite, le village des athlètes, où donc les athlètes vont dormir pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques.
Alors vous êtes spécialisé dans l'événementiel, notamment dans les infrastructures temporaires, c'est par exemple tout ce qu'on trouve dans les salons comme les stands. Vous, concrètement, pour ces Jeux Olympiques, qu'allez-vous apporter ?
On peut monter des tribunes, des tentes, livrer du mobilier, installer des cloisons, des générateurs, des matériels de climatisation, de la signalétique et de la décoration au sens large. Nous avons aussi d'autres composantes de la division live qui sont concernées potentiellement, comme les hôtesses, le catering, les services de conciergerie et de voiture. Donc ça, c'est vraiment un volet des services qu'on propose sur les grands événements. Et un autre volet qui est potentiellement concerné, c'est l'organisation d'événements, puisque nous sommes parfois engagés par les comités d'organisation pour concevoir et produire les cérémonies d'ouverture ou de clôture.
Alors quand on est une entreprise française, comment fait-on pour être compétitif ?
Déjà, je pense que ce qu'on doit dire, c'est que Gale Evans Brésil n'est plus vraiment une société française dans son organisation. Nous avons, comme je l'ai dit, 99% de salariés brésiliens. Nous avons aujourd'hui un peu moins de 600 personnes au Brésil. Le président de notre filiale brésilienne est un Brésilien. Et nous travaillons à 99% pour des clients brésiliens avec des fournisseurs brésiliens. Donc nous sommes aujourd'hui une entreprise brésilienne à part entière, je dirais. Bien évidemment, nous avons des outils de gestion et des méthodologies qui ont été héritées de nos expériences ailleurs dans le monde. Mais aujourd'hui, nous nous considérons dans notre approche comme une société brésilienne avec un savoir-faire international. 95% des personnes qui interviennent sur les Jeux Olympiques ou la Coupe du Monde, quand on a des contrats, sont des locaux.
Mais l'innovation, elle reste française, elle vient de France, elle.
Oui, pour l'essentiel, effectivement, parce que c'est là que sont l'essentiel de nos troupes et de nos ingénieurs. Donc on s'inspire beaucoup de ce qui se fait à la maison mère, oui.
Aujourd'hui, quand on n'est pas partenaire officiel d'un événement comme les Jeux Olympiques, on n'a pas de visibilité. Est-ce que ce n'est pas frustrant pour l'entreprise comme vous, voilà, de participer grandement sur le plan de la logistique, mais quand on regardera la télévision, on ne saura pas forcément qui aura géré l'event?
Oh, ce n'est pas frustrant parce que c'est notre quotidien. Notre société, comme la plupart des sociétés qui travaillent dans le montage d'événements, travaille dans l'ombre. Nous sommes très visibles pendant le montage, très visibles pendant le démontage et complètement invisibles pendant l'événement. C'est la règle du jeu. Il est vrai que pour les collaborateurs, parfois, c'est un petit peu triste de se dire « là là, tout ce qu'on a fait, personne ne le sait ». Maintenant, les gens du métier le savent. Et c'est vrai que nous sommes souvent recommandés d'un événement sur l'autre par les comités d'organisation ou par leurs prescripteurs. Voilà, donc la frustration existe, mais on sait que c'est la nature de notre métier qui veut ça.
Les Jeux Olympiques, ce sont aussi les Jeux Paralympiques qui débuteront début septembre. Là aussi, les entreprises françaises ont trouvé leur marché. C'est le cas d'Invacair, spécialisée dans les fauteuils roulants. Elle fournira de nombreuses nations françaises et étrangères. Alors nous sommes ici dans la petite commune de Fondette, à côté de Tours, pour nous rendre à la rencontre de l'entreprise Invacair. C'est une entreprise qui fabrique des fauteuils roulants, c'est sa principale activité, mais elle est aussi spécialisée dans la fabrication de fauteuils pour les sportifs, aussi bien au niveau régional que national, mais aussi pour les sportifs de très haut niveau, et notamment ceux qui partiront aux Jeux Paralympiques de Rio, qui débuteront début septembre. Alors nous allons voir ici comment sont faits ces fauteuils, et surtout pourquoi ils coûtent très cher. C'est un matériel spécifique, fait sur mesure, avec un certain coût, pouvant aller jusqu'à 12 000 euros. Alors j'imagine que c'est une belle vitrine pour vous, ces Jeux Paralympiques de Rio.
Oui, mais effectivement, maintenant, c'est vrai que nous sommes habitués à l'événement puisque ça fait des années, encore une fois, qu'on est dans le milieu du sport et on a aussi d'autres événements comme les championnats du monde et d'autres activités. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est maintenant devenu assez courant pour nous.
Jean-Bernard Herbeau, responsable produit chez Invacair.
Donc ici, on est au sein du showroom. On a des utilisateurs qui sont là, nos commerciaux. Et donc on a toute une gamme de produits exposés, dont les fauteuils de sport, quelques fauteuils de tennis, un fauteuil multisport par exemple, et puis aussi des vélos, puisqu'on est aussi spécialisé, pas que sur le fauteuil de basket, mais également sur les fauteuils d'athlétisme ou les handbikes, activité importante aujourd'hui également.
Alors par lequel on pourrait commencer, lequel est le plus impressionnant?
Le plus impressionnant, c'est le handbike, bien sûr, donc celui qui est le plus couché.
Alors là, on a donc ce fameux handbike, ça c'est pour les champions qui feront des compétitions de vélo.
Exactement, donc c'est du vélo couché en fait, avec des manivelles, et la personne va se propulser à l'aide de ses membres supérieurs, en démultipliant bien sûr comme un vélo la partie cycle, et donc il va se propulser avec ses membres supérieurs.
Il faut pédaler entre guillemets avec les bras et pas avec les jambes.
Exactement. Donc c'est très très aérodynamique, très 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 bas, on a une garde au sol très faible pour gagner en aérodynamisme justement. Et puis après bien sûr c'est le champion qui fait la différence puisque c'est son entraînement qui fait qu'il sera compétitif ou pas.
Alors avoir un matériel de champion comme ça c'est un coût, combien coûte ce vélo fauteuil?
Je vais vous répondre que tout dépend de la configuration encore une fois puisque selon le type de roue, selon le type de pédalier que vous allez choisir, tout se fait sur mesure de A à Z, y compris les dimensions du vélo. Donc on aura, on va dire, une grande fourchette, je vais vous donner, ça peut aller de de 5000 euros jusqu'à, pour un athlète, hein, j'entends, jusqu'à plus de 10-12 000 euros le vélo.
J'imagine que pour vous aussi, vos vélos qui vont passer à la télévision pendant les Paralympiques, ça aussi, l'impact de l'image, ça compte aussi. Vos fauteuils vont faire le tour des écrans du monde.
Oui, tout à fait. Alors, ce, pas qu'au niveau national, du international, parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'athlètes internationaux sont équipés de notre matériel. Et pas seulement au niveau des vélos, comme on le citait, mais au niveau du basket. Pour information, nous sponsorisons l'équipe de France de basket depuis plus de 33 ans. Donc au niveau des hommes, des femmes et aussi des espoirs. Donc ça fait partie prenante de notre activité, c'est quelque chose de très courant. Différentes équipes internationales, comme par exemple l'équipe des États-Unis en basket, sont aussi pour une grande partie équipées de produits Univacare. Et on multiplie cela par le nombre de sports. Ça, je vous citais le vélo, je vous citais également le tennis, hein, on a un certain nombre d'athlètes. L'athlétisme également, qui sont des fauteuils très spécifiques.
Alors in fine, pour les Paralympiques, combien de champions avez-vous équipé pour l'équipe de France et aussi pour les autres pays ?
Écoutez, pour l'équipe de France, déjà, à ma connaissance, je pense que l'équipe de basket féminine est qualifiée. Donc il y a un certain nombre de fauteuils que nous avons fait et que nous sommes en train encore de faire, puisque les derniers ont été commandés il y a seulement quelques jours. Il y a quelques vélos qui vont partir, en tout cas pour la France, à ma connaissance. Voilà, j'en ai pas plus à fond après, puisque c'est vrai qu'ils sont en pleine préparation et on n'a pas forcément le nom de tous les athlètes qui seront qualifiés. Voilà, un certain nombre. Et en tout cas, au niveau international, beaucoup de monde.
Alors j'imagine que ça aussi c'est une difficulté, parce que comme vous le disiez, il y a encore des compétitions, il y a encore des qualifs, comme on dit, des qualifications pour les Jeux de Paralympiques, même si c'est dans quelques semaines, il y a des qualifications qui arrivent au dernier moment. Ça pour vous, en termes de production, c'est un véritable défi de pouvoir répondre à la demande dans des délais très serrés, surtout sur un matériel aussi particulier.
Oui, tout à fait, c'est effectivement un peu complexe. Maintenant, c'est vrai qu'on s'organise en conséquence. En fait, on sait que les JO sont tous les 4 ans. Ça entraîne un flux de commandes important et les athlètes veulent toujours un fauteuil neuf pour l'événement. Alors ça demande bien sûr de l'anticipation, comme je disais, de l'organisation. Et on est derrière chaque produit et pour des produits sur mesure comme ceux-là, pour être sûr de l'avoir en temps, il faut compter entre 8 et 12 semaines.
Si depuis les Jeux de Londres, il y a 4 ans, il n'y a plus de distinction pour les primes entre les médaillés valides et handicapés, le monde du handisport est loin d'avoir les mêmes moyens et les mêmes salaires. Il survit grâce aux subventions et au sponsoring, d'autant que leurs équipements, comme par exemple les fauteuils roulants ou les prothèses, sont très onéreux, comme nous l'explique Marie-Amélie Le Fur, que nous avons rencontrée lors des championnats de France au stade Charletti, à Paris, dans le 13e arrondissement. Championne du monde et médaillée d'or à Londres, elle tentera pour ses derniers Jeux de décrocher l'or olympique. Alors Marie-Amélie, on vous retrouve là, vous êtes médaillée, donc championne de France aujourd'hui ici à Charletti, à Paris. Elle est comment cette médaille de championne de France ?
On a une belle médaille, nouveau design, avec le logo de la fédération, sur une médaille principalement ronde. Mais c'est surtout de belles médailles qui permettent de faire rêver les jeunes et de leur donner envie de s'entraîner plus pour aller les gagner.
Alors, comme on est sportif handisport, il y a aussi l'aspect équipement. Alors, pouvez-vous rappeler déjà dans quelle catégorie vous êtes et quels sont les équipements spécifiques dont vous bénéficiez afin de pouvoir réaliser les compétitions et engranger les titres que vous avez déjà ?
Moi, je concours dans la catégorie des amputés tibiales, donc c'est-à-dire amputés sous le genou d'une seule jambe. Donc, je cours avec des prothèses qu'on appelle des lames de course. Donc, les lames coûtent à peu près 10 000 euros. Donc, forcément, c'est un gros budget. C'est du matériel qu'on va changer environ une fois par an. Et au-delà de ce matériel qu'est les lames, forcément, on a besoin de tout le matériel spécifique, les pointes, les équipements, voilà, un peu plus classiques du sport. Moi, j'ai deux lames. J'ai une lame de sprint, une lame de saut. J'en ai une aussi pour le footing. Donc, on a quasiment un budget annuel qui est de 25 000 euros pour rien que pour le matériel. Donc, sans l'aide des sponsors, sans le fait de travailler à côté, sans l'accompagnement pour choisir et avoir le matériel, je pourrais pas être sportive de haut niveau handisport. C'est totalement impossible. Après, moi, j'ai la chance d'être championne paralympique, d'être championne du monde, d'avoir fait mes preuves, donc d'être accompagnée par des sponsors. Malheureusement, c'est pas le cas de tout le monde en handisport. Il y a encore beaucoup d'athlètes qui n'ont pas d'équipementier, qui n'ont pas de gens pour les aider à payer ce matériel indispensable. Donc voilà, on va dire qu'on a des talents en devenir qui sont bloqués par cette question financière du le sportif de haut niveau handisport ne gagne pas d'argent, est obligé de travailler à côté, ne peut pas s'entraîner correctement. Donc c'est vraiment un frein au développement de la pratique sportive.
Alors concrètement, comment ça se passe quand on va chercher les sponsors? C'est vous qui les démarchez?
Moi, j'ai la chance, encore une fois, d'être très bien entourée. Donc, c'est principalement mon papa qui va démarcher les sponsors. Donc, à l'époque, voilà, c'était envoyer beaucoup de lettres, beaucoup de dossiers, du pressbook, enfin, les choses classiques. Donc, on a démarché, on a reçu beaucoup de noms à l'époque, parce que c'était avant que je devienne championne paralympique ou championne du monde. Mais il y a quand même à l'époque, que dès le début, des sociétés qui m'ont accompagnée, qui m'ont encouragée au niveau des pouvoirs publics. Et voilà, même avant les Jeux de Pékin, même avant les Jeux de Londres, j'ai différentes entreprises qui se sont investies à mes côtés, qui m'ont permis d'avoir ce matériel indispensable à la pratique et puis de me construire comme athlète de haut niveau. Donc voilà, les sponsors me permettent ça, c'est-à-dire une belle préparation, mais finalement qui est ce que les autres nations ont de par leur fédération directement. Mais bon, après voilà, le sport véhicule des valeurs, c'est quelque chose qui peut vraiment dynamiser la société. Je pense que ça peut donner du plaisir et dans ces temps difficiles, c'est vraiment de belles choses qui sont portées par le sport et c'est pour ça que c'est vraiment un milieu qu'il ne faut pas négliger.
Vous écoutez le magazine de la rédaction sur France Culture, les JO de Rio, les entreprises françaises sur le podium. C'était un magazine signé Hakim Kasmi, réalisé par Annie Bro et avec la collaboration aussi au Brésil, n'est-ce pas Hakim, de Thibaut Cavaillès pour la prise de son. Nous sommes toujours avec nos deux invités, Didier Primo qui est économiste au Centre de droit et d'économie du sport à Limoges et le directeur général adjoint de France Télévisions qui s'occupe du sport là-bas, Daniel Bilalian. Une première question peut-être à vous monsieur Primo au sujet du budget dont on n'a pas parlé là du tout, mais du budget général des JO qui commence donc le 5 août prochain. C'est un budget assez colossal. Moi j'ai vu des chiffres, enfin avec Hakim, entre 8 et 10 milliards d'euros. J'imagine qu'il n'est pas tout à fait finalisé parce qu'il y a encore des équipements qui ne sont pas complètement terminés. Un tel investissement, c'est énorme pour un pays comme le Brésil qui est quand même en récession. Est-ce que ça peut être quand même pour le Brésil l'occasion de réussir un véritable pari financier ou est-ce simplement un très très grand risque qu'ils prennent?
Alors bonsoir, c'est effectivement un coût qui est important. Il faut se souvenir que les Jeux ont été attribués au moment où la situation économique du Brésil n'était pas du tout la situation actuelle. Ils étaient avec un taux de croissance très très important, comme les autres BRICS. Et donc les perspectives ont changé par rapport à ça. Le coût est important, les impacts peuvent être éventuellement également importants. Beaucoup moins l'impact économique dont on parle souvent et trop souvent à notre sens, que la possibilité, si le projet a été bien pensé, de laisser un héritage qui sera important pour l'économie générale du pays. Pour Rio, des infrastructures de transport, très clairement, est-ce que là ce sera réussi ou pas? Et aussi placer Rio comme une ville plus mieux repérée, et ça paraît un peu étonnant, mais en termes de destination touristique, Rio, les responsables de la ville de Rio qu'on a rencontré au niveau des relations internationales nous indiquaient que Rio c'est 5 millions de visiteurs. 5 millions de visiteurs quand on compare aux touristes qui viennent sur Paris ou sur la France, c'est effectivement très très faible quand on connaît la qualité des sites à Rio.
Donc un beau potentiel de croissance. Daniel Bilalian, vous qui avez dû aller plusieurs fois, j'imagine, au Brésil et qui surtout avez suivi pas mal d'autres rencontres olympiques, est-ce que des villes, par exemple comme Londres, la dernière à accueillir les JO, en ont tiré un véritable bénéfice et que peut espérer le Brésil?
Bah écoutez, la réponse est différente selon les villes. Je veux dire, lorsque les Jeux Olympiques ont eu lieu à Athènes, il semblerait, vu l'état des installations, que ça n'ait pas servi à grand chose, que c'est surtout causé un déficit assez important. Pour ce qui concerne Londres, c'est différent. La Grande-Bretagne, l'Angleterre sont des pays de véritables sportifs. Donc les installations avaient été faites en conséquence et elles sont aujourd'hui parfaitement rentabilisées. Alors qu'en sera-t-il de Rio? C'est après qu'on le sait, parce que sur le moment, évidemment, les politiques qui ont voulu ces jeux, ces manifestations, ne vont pas vous dire qu'après, elles tomberont peut-être dans un état de délabrement avancé, comme ce fut le cas en Grèce. Donc, il faut attendre pour voir si ces investissements ont une réelle valeur. En général, ils ont une valeur en termes, on l'a entendu dans ce reportage, en termes de mise en route, de transport en commun qui n'existait pas, d'installation dans les villes, de réhabilitation d'un certain nombre de quartiers. Ça, sans aucun doute. Pour le reste, pour ce qui concerne les installations sportives elles-mêmes, Là, c'est une toute autre question et il faut attendre un certain temps pour savoir si oui ou non l'investissement a été véritablement positif ou pas.
Et si elles sont adoptées en quelque sorte par la population locale, une question de Hakim Kasmi.
Alors pour dire sur le financement, on le voit d'ailleurs, une ville comme par exemple Montréal, qui a accueilli les Jeux en 1976, vient tout juste 40 ans après de rembourser ses dettes. Est-ce que le Brésil aurait dû faire un choix entre la Coupe du Monde en 2014 et les JO? Est-ce que ce n'était pas trop ambitieux de faire les deux, notamment sur une période aussi rapprochée?
Question posée à Didier Primo.
C'est vrai que c'était un risque, et c'est un risque qui a été aussi couru finalement par le Comité international olympique et la FIFA, de mettre en conjonction deux événements comme cela. Beaucoup avaient parié effectivement qu'il y aurait d'énormes difficultés. Pour la Coupe du Monde de football, il y a eu des difficultés, mais de fait, l'événement s'est déroulé dans d'assez bonnes conditions. Les équipements ont été, je dirais, à peu près terminés, même s'il manque effectivement souvent les derniers boutons de guêtre. Là, pour les JO, au niveau des équipements, je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'inquiétudes. Des équipements sportifs eux-mêmes, il y a quelques inquiétudes évidemment qui tournent autour du métro en particulier, qui est un élément très très important pour le futur aussi à Rio.
Donc, alors on peut peut-être clairement préciser, non, pour le métro, parce que je ne sais pas si que les auditeurs sachent exactement. Donc la ligne 4 apparemment, qui est très importante, elle sera inaugurée seulement le 1er août d'après ce que j'ai lu, alors que les JO commencent le 5 août, c'est pour donner une petite précision de calendrier.
Tout à fait. Et c'est vrai que mais si cette ligne est construite, je dirais presque même qu'elle se soit avant, il vaudrait mieux, ou après les JO, ça peut être un vrai héritage absolument colossal et très très important pour la ville de Rio, toute l'agglomération, puisque pour qui connaît Rio, il y a une vraie difficulté pour passer d'une des parties de Rio à l'autre, effectivement, vers Barra de Tijuca. Donc ça peut être un héritage absolument fondamental pour le quotidien des Cariocas et pour le développement de l'économie de la ville. Effectivement, quand on prend l'exemple de Montréal, c'est le parfait mauvais exemple. Monsieur Bilalian parlait aussi d'Athènes. Quand on construit des infrastructures sportives qui ne trouvent pas une utilisation et avec des coûts d'exploitation raisonnables ultérieurement à la compétition, là, on va directement à la catastrophe et effectivement, on a, je dirais quelque part, jeté l'argent par les fenêtres. Il faut, pour une réussite économique, il faut pas d'infrastructures sportives surdimensionnées dans tous les cas, et si possible, beaucoup d'infrastructures qui vont servir à l'économie générale du pays ou de la ville ultérieurement.
Alors, on a bien vu dans le reportage de Hakim qu'il y a un grand nombre d'entreprises françaises qui espèrent tirer un véritable bénéfice, au moins en termes d'image, dans leur participation aux Jeux Olympiques. Danel Bilalian, vous êtes responsable du sport sur France Télévisions. France Télévisions va diffuser tout de même 700 heures de direct au cours de ces JO. C'est le double de ce que vous aviez fait, si je ne me trompe pas, en 2012. Pourquoi une telle diffusion massive de compétitions sportives en direct cette année ?
D'abord, la première chose, c'est que les Jeux Olympiques font partie de ces événements rares, une fois tous les 4 ans, et que j'allais dire que nous, en tant qu'entreprise de télévision, mais entreprise publique, nous avons une forme d'obligation, et ce n'est pas négatif dans ma bouche, de diffuser et de permettre aux Français de voir l'ensemble des compétitions. Ce qui n'était pas possible les années précédentes le devient, c'est-à-dire que avec le développement de la TNT, en dehors des deux grandes sociétés que sont France 2 et France 3, nous avons un développement de la TNT, de la télévision sur la TNT, France 4, France O, qui nous permettent aujourd'hui, à un niveau tout à fait convenable, de disposer de plus d'heures d'antenne possible. Nous allons diffuser donc l'essentiel des compétitions sur France 2 et France 3, selon les intérêts des jours qui se suivent, et ensuite des compétitions dans leur totalité, compétitions de sport collectif comme le football, le rugby, le volleyball, le basket, le hand, sur les chaînes de la TNT aujourd'hui qui ont un véritable auditoire, ce qui n'était pas le cas il y a encore où c'était un phénomène qui était tout à fait en démarrage et qui ne permettait pas d'exposer valablement ces compétitions. Par ailleurs, le prix d'achat d'une compétition comme les Jeux Olympiques oblige la société qui l'a acheté à rentabiliser au maximum son investissement, sachant que le sport sur n'importe quelle chaîne, on ne rentre pas dans son argent à l'euro pour l'euro, mais ça donne à votre société d'abord une audience assez considérable pendant la période de ces 15 jours, et là ce sera 15 jours et ensuite 15 jours pendant les Paralympiques, ce qui fait que sur l'année, si vous voulez, vous allez augmenter votre pourcentage, vous allez représenter 15% du marché au lieu de 14, 20 au lieu de 19, et ça ça va à ce moment-là permettre à votre régie publicitaire de vendre du 19 ou du 15 au lieu de vendre du 14 et du 18.
Bien sûr, mais alors est-ce que vous allez peut-être nous donner le chiffre justement le montant des droits que vous avez dû acheter ? Parce que je pense que c'est assez confidentiel.
Je ne vous le donnerai pas parce que parfois avec des vendeurs, ils s'autorisent à donner le chiffre et on peut le donner. Là, entre le CIO et nous, les chiffres sont confidentiels. Mais si vous voulez m'écouter, ça représente plusieurs dizaines de millions d'euros. Et en plus, je ne parle que des droits. Ce dont on ne parle jamais à propos du sport, c'est les coûts de production pour l'acheteur.
Oui.
Et les coûts de production se montent là aussi à plusieurs millions. C'est quelque chose qu'il faut organiser. Les Jeux Olympiques, c'est un spectacle sportif que vous organisez 4 ans à l'avance. On est déjà en train de préparer les prochains qui ont lieu dans le sud-est asiatique. Donc vous voyez, il faut louer des emplacements, s'occuper de l'hôtellerie. Il y a toute une logistique qui représente plusieurs millions d'euros si vous voulez faire les choses convenablement comme nous essayons de faire.
En grand, avec 70 journalistes sur place, je crois. Une question de Hakim Kasmi.
Alors Daniel Bilalian, France Télévisions reste un groupe public. Est-ce qu'aujourd'hui, dans le nouveau paysage audiovisuel, avec par exemple beIN Sport ou encore SFR qui a chippé les droits du football anglais, est-ce que ces droits ont tendance à augmenter ? Est-ce que vous n'êtes pas inquiet pour l'avenir en vous disant, voilà, moi je suis que le service public, je n'aurai pas forcément les mêmes moyens que mes concurrents privés qui arrivent aujourd'hui sur le marché ?
Ah bah si vous faites mon métier et que vous n'êtes pas inquiet, moi je propose au président de votre société de vous renvoyer tout de suite. Ma vie n'est faite que d'inquiétude, parce qu'effectivement, vous avez raison, les prix sont considérablement en augmentation pour une raison simple, c'est qu'aujourd'hui, pour les télévisions dites classiques, le sport reste le dernier grand événement vu par un public considérable et qui est vu dans les conditions de la télévision d'avant, c'est-à-dire votre publicité pour une voiture ou un produit quelconque, vous êtes sûr qu'à l'occasion d'un match de football, d'une compétition, vous ne serez pas forcément en replay, mais vous serez en direct dans votre publicité, elle a toute sa valeur. Oui, c'est en augmentation parce que aussi se sont montées des sociétés internationales, si vous voulez, vous parliez de beIN, Discovery qui a racheté Eurosport, même des sociétés chinoises qui sont en train de se monter, ou encore le groupe Altice. Ce sont des gens qui sont à la tête de sociétés multinationales. Dans le temps, il y a 5 ans encore, des vendeurs venaient du monde entier vendre cher, moyennement cher, à TF1, à nous, à Canal, à M6 à la marge, à des acteurs nationaux. Aujourd'hui, ces acteurs internationaux peuvent acheter au niveau mondial l'ensemble des droits et faire disparaître les télévisions gratuites qui existent en France à leur bénéfice. C'est vrai, c'est un sujet d'inquiétude.
Même question à Didier Primo. À quoi va ressembler, d'après vous, le marché effectivement de la diffusion de tous ces immenses événements sportifs dans les années qui viennent ? Est-ce qu'on va rester effectivement sur du direct, donc via des canaux assez classiques, ou par exemple, tout ce qui est Internet va détrôner petit à petit la télévision et France Télévisions en l'occurrence ?
Je ne me hasarderai pas à parler devant M. Bilalian de l'évolution du marché télévisuel. Ce qu'on peut voir au niveau des événements ou du sport de façon générale, c'est qu'effectivement, M. Bilalian parlait de la concurrence sur le marché télévisuel. Il y a une concurrence également très très forte sur le marché des événements. Et on peut voir que les grands événements attireront toujours énormément effectivement de candidats potentiels pour les diffuser. Mais dès qu'on descend dans la hiérarchie de ces événements, effectivement, peut-être que ce sont d'autres supports et d'autres canaux qui permettront de les diffuser parce que les télévisions sont moins intéressées pour effectivement les télévisions en clair, par exemple, pour les diffuser. Dans certains cas, les télévisions, les chaînes payantes ne sont pas intéressées non plus parce que effectivement, il y a des coûts de production, comme l'indiquait M. Bilalian, qui peuvent être très élevés. Et là, des solutions plus souples et un peu moins coûteuses et qui permettent des diffusions, par exemple, sur Internet, peuvent trouver un espace un petit peu différent.
Une question quand même à Daniel Bilalian à nouveau sur les droits de diffusion. Vous avez vendu, je crois, vous avez acquis, si j'ai bien compris, la totalité les droits sur la totalité des événements sportifs là pour les JO 2016 et vous l'avez revendu. Vous avez revendu ces droits de diffusion à Canal+. Pour quelle raison ?
Pour des raisons économiques, parce que la situation de l'entreprise nous indiquait qu'on pouvait se livrer à ce type de sous-licence. Pour nous, la sous-licence à une chaîne cryptée n'est pas un problème en particulier, parce que vous savez, à propos du sport, les choses aujourd'hui sont claires. Les chaînes cryptées s'adressent à des passionnés de sport qui vont regarder toute l'année les championnats récurrents, etc. Nous, les gens, aujourd'hui, c'est très clair, c'est vrai pour TF1, c'est vrai pour nous, ne viennent voir chez nous que des événements de sport. Nous, pareil, je vais vous donner un exemple. Le top 14, c'était le championnat de France de rugby, est vendu à Canal+, qui le diffuse toute l'année, y compris la finale que nous co-diffusons, car c'est un événement dit réservé qui doit être l'objet d'un compromis entre une chaîne gratuite et une chaîne payante. Eh bien, ce jour-là, figurez-vous, de la finale, les gens viennent voir la finale chez nous. Ils viennent, c'était le cas samedi et vendredi dernier, ils viennent à plus de 3 millions et sont au niveau de 700 000 sur une chaîne comme Canal. Mmh. Donc il y a un compromis éventuel. Et puis aussi, vous avez raison, pour des raisons économiques, parfois il faut compenser un achat par une collaboration. Il y a beaucoup de collaborations aujourd'hui. Par exemple, nous faisons la Coupe de France de football. Nous n'avons pas besoin de tant de matchs, donc nous codiffusons avec Eurosport. Nous faisons la Coupe de la Ligue, nous la codiffusons avec Canal+, car nous n'avons pas besoin d'autant de sport. Nous sommes des chaînes généralistes, nous ne pouvons pas diffuser du sport en permanence comme le font ces chaînes qui sont spécialisées dans le sport.
Une question de Hakim Kasmi.
Oui, Daniel Bilian, pour conclure sur les droits télé, est-ce que pour vous le fait de ne pas pouvoir passer la publicité après 20h, c'est un handicap d'autant qu'on sait, hein, le prime time entre 8h et 9h, c'est là que les spots coûtent le plus cher?
Oui, vous avez totalement raison. Je me contenterai de vous répondre. Oui, ça a été la plus mauvaise nouvelle depuis que je suis à la tête de ce service des sports. Figurez-vous que j'avais, quelques jours avant la disparition des spots publicitaires après 20h, j'avais négocié avec les organisateurs du tournoi Destination, qui sont des Britanniques, qui ont l'habitude de jouer au rugby l'après-midi dans la boule samedi, enfin des matchs en nocturne, c'est-à-dire en prime time après 20h, parce que évidemment le coût de la compétition m'avait donné l'idée de rentabiliser la compétition. Eh bien, figurez-vous que le jour où j'ai obtenu ça, la publicité a disparu. Oui, c'est vrai. Par exemple, sur les Jeux Olympiques de Londres, où nous avons fait des audiences exceptionnelles jusqu'à 1h du matin, c'est vrai que la disparition de la publicité après 20h, pour le groupe France Télévisions, c'est effectivement une très mauvaise nouvelle. Une très mauvaise nouvelle, et ça la reste. Ça le reste.
Et puisqu'on parle gros sous, on va en terminer sans doute avec cette question. C'est malgré tout quelque chose qui s'est posé aussi au moment de l'UEFA, qui ne paye pas d'impôts, comme tout le monde le sait, alors qu'ils sont donc les organisateurs en ce moment de l'euro. Hein. Pareil pour le CIO, tout de même, qui ne paye pas non plus d'impôts. Est-ce que le Brésil a énormément à perdre de cela? Enfin, qu'est-ce que vous en pensez, par exemple, vous-même, Didier Primo? Est-ce que les très grandes entreprises comme qui organisent des événements sportifs à cette échelle-là doivent continuer à être exonérés d'impôts?
Ça paraît pas légitime dans l'absolu, tout comme il ne me paraît pas très légitime, et il y a eu quelques débats sur ce point, que certaines multinationales ne payent aucun impôt dans les pays dans lesquels effectivement elles font des affaires. Donc finalement, on est dans une économie mondialisée où les grandes structures, qui sont pas des multinationales, il faut pas l'oublier quand même, mais les grandes structures sportives utilisent un petit peu les mêmes ficelles finalement que les multinationales. Et je pense que on est là aussi dans une situation où effectivement les grands événements, une fois encore, sont effectivement extrêmement courtisés et on arrive à des négociations de ce type-là. Là, le problème probablement, au-delà de celui-ci qui peut en être un effectivement, c'est pourquoi et comment on utilise ces grands événements qui génèrent des audiences et des effets leviers comme aucune autre activité, comment on les utilise pour le mettre au service d'un projet de territoire véritablement. Pour Paris, par exemple, il apparaît que les porteurs de la candidature aujourd'hui jouent beaucoup avec le territoire sur l'idée qu'on va effectivement enfin construire réellement le Grand Paris. Si les JO 2024 à Paris permettent de faire ça, un objectif après lequel on court depuis des décennies pratiquement,
ça aura été une belle victoire.
L'impact sera énorme. Et il y aura
en tout cas, ce sera l'objet certainement d'une autre émission. Merci beaucoup à tous les deux, Daniel Bilalian, Didier Primo, d'avoir participé à ce magazine de la rédaction. C'était le dernier de la saison. À partir de la semaine prochaine, il y aura des rediffusions le dimanche soir de 19h à 20h et on commencera dimanche prochain, donc le 10 juillet, par le magazine À 30 ans chez Papa Maman, les Tanguis de la crise, magazine signé à l'époque Sophie Delpont. Ce soir, c'était donc le magazine de Hakim Kasmi, réalisé par Annie Bro, à la technique Bruno Gagnère. Merci également à Thibaut Ulrich de France Bleu Limousin et à Jérémy Tuile qui a assuré la liaison depuis Saint-Lô, où débutera donc le Tour de France demain. Vous pouvez réécouter cette émission, la podcaster, la commenter sur notre site franceculture.fr grâce à Eric Chavroux.